Les indices américains hier en clôture, ou encore la nouvelle flambée des prix du brut. Le baril a dépassé les 48 dollars hier soir à New York et en ce moment à Londres. Eh bien, le Brent est à 44,97 $. C'est une augmentation de 0,1% de l'or noir. Sur le marché des changes, l'euro, lui, a tendance à s'apprécier un petit peu face au billet vert. La monnaie unique européenne qui cote en ce moment 1,2311 $, ce qui représente une appréciation de 0,54%. Voilà, Claire, je vous rappelle que le CAC 40 perd 0,97% à 3656 points. À la Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur.
Merci beaucoup. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 4 ans avant la Révolution, le plus grand scandale du règne de Louis XVI, l'affaire du collier de la reine. Un cardinal escroc, la reine impliquée dans une affaire de faux. Que de fange sur la crosse et sur le sceptre, quel triomphe pour les idées de liberté. Fréteau de Saint-Just. Dominant d'histoire. Saura-t-on jamais la vérité sur ce qui fut un des plus grands scandales de l'histoire de l'Ancien Régime ? En 1785, un prince de l'Église, une courtisane sans scrupules, un charlatan, un gigolo et une putain, ruinaient le prestige de la monarchie en la mêlant à une affaire qui, depuis 2 siècles, a inspiré une quantité de romanciers et de scénaristes, l'affaire du collier de la reine. Le 15 août 1785, jour de l'Assomption, dans la galerie des glaces de Versailles, en présence de toute la cour, le cardinal de Rohan, grand aumônier de la couronne, était arrêté sur ordre de Louis XVI et conduit à la Bastille. Le scandale fut immense, à la mesure de cette affaire et du collier qui en est à l'origine, une pièce exceptionnelle, la plus chère sans doute jamais fabriquée par un joaillier, et qui allait ébranler la monarchie, ternir la réputation d'une reine de France et d'un cardinal, et ruiner le bijoutier qui l'avait fabriqué.
Ceci est le couronnement de toute ma vie. Au total, il ne pèse pas moins de 2800 carats.
Se voit, monsieur Beaumère.
Monsieur Bassange et moi avons mis toute notre âme dans cette pièce.
Et tous les livres que vous possédiez, j'imagine.
Oh, nous avons bien sûr contracté quelques dettes pour acquérir ces pierres.
Je suis sûre que vous n'aurez pas de mal à trouver un acquéreur.
Si sa majesté daignait essayer le collier sur elle.
Ce collier phénoménal. Pourtant, j'y résiste.
Je vous rappelle que nous sommes les joailliers attitrés de Sa Majesté. Notre réputation sera compromise si nous devons chercher d'autres acheteurs.
Je n'ai pas commandé ce collier et je ne souhaite pas l'acquérir, monsieur.
Nevers, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était Marie-Antoinette refusant effectivement le collier qui allait pourtant lui porter malheur. Alors un bijou tout à fait extraordinaire que l'on voit d'ailleurs sur la couverture de votre livre, L'affaire du collier, qui vient de sortir chez Fayard. Alors un collier qui est à l'origine d'un des plus grands scandales, on peut dire, de l'histoire de la monarchie, et quelque chose que Marie-Antoinette avait refusé parce qu'il coûtait trop cher. Il était magnifique, mais effectivement, il coûtait une fortune.
Alors c'était le collier le plus fabuleux de l'histoire européenne, n'est-ce pas ? 2842 carats, c'est très difficile à imaginer. C'est un collier qui prenait le tour du cou avec des pierres d'une eau extrêmement pure, extrêmement claire, et qui redescendait jusqu'au dessous de la taille. Si on veut voir ce collier aujourd'hui pour en avoir une idée, eh bien il faut aller au château de Breteuil.
Une copie, je suppose.
Où il y a une copie en cristal qui a été faite par Stéphane Marant, qui est un joaillier spécialisé dans la reconstitution de bijoux historiques. Alors, ce bijou avait été créé par les grands joailliers Beaumère et Bassange, dans l'espoir de le vendre à Louis XV pour Madame du Barry vers 1770. Seulement Louis XV est mort, et depuis lors, les joailliers qui a d'ailleurs avaient emprunté pour assurer une pièce pareille, les joailliers essayaient de le vendre dans toutes les cours d'Europe, et ils avaient essayait de vendre à Louis XVI pour la reine. Louis XVI voulait bien l'offrir à la reine et on dit que la reine aurait refusé cet achat.
Alors qu'elle aimait les bijoux.
Alors qu'elle adorait les bijoux, qu'elle avait acheté des bijoux fabuleux déjà à ces deux joailliers. Eh bien, la reine avait refusé en disant que la France avait davantage besoin d'un bateau de guerre plutôt que d'un collier.
Bah, car le prix 1 600 000 livres.
Alors, il est difficile de faire une évaluation, mais à l'époque, sachez qu'un grand hôtel particulier valait à peu près 300 000 livres dans Paris, qu'on avait un immense château pour 500 000 livres, et aujourd'hui, j'ai fait faire des évaluations, c'est quelque chose qui vaudrait peut-être 7 millions d'euros.
Hein? Oui, c'est énorme. Alors, il y a de quoi tenter, évidemment, les escrocs, les voleurs, et parmi eux, cette femme extraordinaire qui est un peu le cerveau de cette affaire du collier, qui s'appelle Madame de la Motte. Madame de la Motte Valois, hein, parce que elle descend, évidemment, de la grande dynastie qui avait régné sur la France jusqu'à Henri III.
Oui, enfin, par la main gauche, tout à fait à gauche.
De Henri II, voilà.
Oui, oui. Alors, Madame de la Motte, ça sera le cerveau de cette affaire. C'est une aventurière de haut vol, comme on en a rarement rencontré. Alors, elle prétendait, et c'était vrai, descendre d'un bâtard de Henri II, mais enfin, les bâtards s'étaient mariés avec des vachères, avec des femmes de ménage, etc., au cours de l'histoire, et par conséquent, on n'a pas là affaire, véritablement, à une grande dame. Seulement, cette personne qui avait mendié dans toute son enfance avait décidé de se faire reconnaître comme une véritable Valois et elle tenait justement à cette reconnaissance. Et elle avait fait la connaissance du cardinal de Rohan.
Alors, autre personnage. Mais lui, le Candide, c'est vraiment le pigeon.
C'est un Candide, si on veut. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Ce cardinal de Rohan, lui, a été ambassadeur de France auprès de l'impératrice Marie-Thérèse, c'est-à-dire auprès de la mère de Marie-Antoinette, et il s'est fait très mal voir par l'impératrice parce que il a médit de la jeune dauphine et puis plus tard, il médira de la reine en disant que c'est une femme légère. Il se moque aussi de l'impératrice.
Alors du coup, il faut le rappeler qu'il est grand aumônier de la couronne, mais du coup, il est détesté par Marie-Antoinette qui refuse de lui parler pendant des années. Il est un
peu
naïf.
Elle le déteste.
Il est un peu candide d'ailleurs cet homme parce qu'il va rencontrer Madame de la Motte qui va lui faire qui va raconter des histoires. Il écoutait beaucoup aussi Cagliostro, autre personnage étonnant.
Oui, mais alors attendez, Madame de la Motte, il faut pas quand même oublier que elle est devenue sa maîtresse et on ne pourrait pas comprendre l'histoire s'il n'y avait pas certainement une folie des sens qui se soit emparée du cardinal de Rohan. Parce qu'autrement, il ne peut pas avoir cru cette femme s'il n'y avait pas des liens intimes forts. Et le sexe, à mon avis, y est pour beaucoup dans cet attelage complètement affolant. Et d'un autre côté, comme vous l'avez dit, il y a Cagliostro. Cagliostro,
employé
de
Rohan.
Ah oui, alors c'est un charlatan de première catégorie. Et ce Cagliostro recherche la pierre philosophale. C'est un guérisseur, c'est un devin. Il lit le passé, le présent et l'avenir. Et il promet au cardinal, dit-on, de refaire, de fabriquer de l'or et de faire grossir des diamants. Et le cardinal, il ne faut pas oublier que c'est aussi un homme, un libertin, un homme qui s'ennuie. Il faut toujours l'arracher à lui-même, à cet ennui dévorant.
Et oui, c'est un cardinal pas très catholique.
Hein, c'est un cardinal pas très catholique, mais vous savez, vous avez à ce moment-là toute une société qui se délite de cette façon-là et qui recherche à la fois dans le sexe et dans les choses extraordinaires des distractions.
Alors, ce cardinal de Rohan rencontre Madame de la Motte qui va lui faire croire qu'elle est une intime de Marie-Antoinette et qui lui fait espérer une réconciliation avec Marie-Antoinette.
Et le cardinal la croit. Ouais. Il la croit. Et c'est pour ça que j'insiste sur les liens intimes qui peuvent exister entre Madame de la Motte et le cardinal.
Il y a une chose extraordinaire, c'est que non seulement il la croit, mais il la croit parce qu'elle vient avec, elle réussit à jouer des intermédiaires entre Rohan et Marie-Antoinette, en tout cas Rohan le croit, parce qu'il y a une correspondance qui s'échange entre Rohan.
Elle a l'idée de cette correspondance. Oui.
Elle donne à Rohan des lettres soi-disant de Marie-Antoinette adressée à Rohan, justement, mais qui sont des faux, qui sont signés par son amant à elle.
Par son autre amant, parce que c'est une dame qui a beaucoup de possibilités, n'est-ce pas? Elle a un amant de cœur, et puis elle a le cardinal de Rohan. L'amant de cœur, lui, fabrique les faux, et elle a eu l'idée d'organiser cette correspondance entre le cardinal, et cette correspondance prend un ton très intime. Mmh. Et un jour, le cardinal lui dit, mais enfin, je voudrais quand même rencontrer la reine. Et c'est elle qui a l'idée d'une scène absolument ahurissante.
Mais c'est surtout elle qui va faire croire au cardinal que Marie-Antoinette, en fait, veut, et c'est là que l'affaire va commencer, Évelyne Nevers, que Marie-Antoinette veut véritablement acheter ce fameux collier de Beaumer, et en tout cas, elle réussit à en convaincre le cardinal.
Pourquoi Marie-Antoinette veut-elle acquérir ce bijou de pacotille dans le plus grand secret?
La rue est très sensible. Une dépense aussi extravagante risquerait d'exciter la fureur du peuple.
Alors, pourquoi entraîner son éminence dans une telle aventure?
Marie-Antoinette cherche un intermédiaire discret. Une personne qui puisse se porter garante devant les joailliers au cas où elle serait forcée par les circonstances de manquer à ses engagements. Votre position se rapproche de celle de la reine. Si par vos soins elle acquiert ce collier, le poste de premier ministre sera au bout du chemin.
Non. Je me suis fait violence en rédigeant ces lettres. J'ai payé des sommes exorbitantes pour que vous exerciez votre influence. Et malgré tout, mes requêtes sont restées vaines. Si je ne rencontre pas Sa Majesté face à face, notre arrangement est terminé.
Et cette rencontre, Évelyne Nevers, entre Rohan et Marie-Antoinette, on va voir
elle
que
n'a
c'était
pas
une
lieu.
Fausse Marie-Antoinette, mais Rohan y a cru. Cette rencontre, ça, alors, il y a un chapitre que vous pouvez lui consacrer. C'est dans un endroit
du parc de Versailles,
qui s'appelle
La Nuit.
Le bosquet de Vénus, en plus.
Bon, ouais. Et il y a une Vénus Callipyge, comme dit l'amant de Madame de la Motte, c'est la Vénus aux belles fesses. Alors, là, Madame de la Motte a été choisir une petite prostituée qui ressemble à la reine et qui va jouer le rôle de la reine.
Nicole Leguet,
dite baronne d'Oliva. Et le cardinal de Rohan va s'incliner devant cette prostituée, pensant que c'est la reine, qui lui remet une rose en lui disant que tout est oublié. Et à partir de ce moment-là, le cardinal s'imagine qu'il a bel et bien rencontré la reine, et Madame de la Motte peut désormais lui demander tout et n'importe quoi au nom de la reine. Elle commence par lui stocker des sommes d'argent considérables, et puis un jour, elle lui dit que la reine a envie d'un joyau fabuleux, c'est-à-dire le fameux collier, et qu'elle est chargée par la reine de lui demander de négocier ce bijou auprès des bijoutiers.
Et Rohan s'exécute.
Il
va chercher le bijou et il va même donner au bijoutier, à Bomer, une lettre, un contrat signé, croit-il, par la reine. En fait, c'est un faux, parce que toutes les lettres étaient signées Marie-Antoinette de France, vous le dites, or jamais Marie-Antoinette ne signait Marie-Antoinette de France, elle ne mettait que son prénom.
Oui, exactement, parce que c'est le contrat qui a été conclu par Rohan est signé, il l'envoie par l'intermédiaire de Madame de la Motte, il l'envoie pour le faire signer soi-disant par la reine, et la signature est une signature folle et fausse, bien sûr, puisqu'elle est, c'est Marie-Antoinette de France. Les reines ne signaient que de leur prénom.
Donc, alors,
c'est un faux caractéristique.
Donc, Bomer, qui lui aussi croit que cette lettre est vraie, donne le collier à Rohan, et Rohan est chargé de l'envoyer à la reine par un intermédiaire. Alors c'est
Madame de la Motte qui prend son propre amant, enfin l'autre amant, et c'est lui qui garde le collier, qui le remet en réalité à Madame de la Motte et pas à la reine, et la Motte et Réto de Villette, l'amant de Madame de la Motte, vont déposséder le collier immédiatement et vendre les pièces,
diamant par diamant,
en Hollande, en France et en Angleterre.
Alors ça, ni Rohan, ni le joaillier ne sont au courant.
Rohan est persuadé que la reine a le collier.
Mais Rohan s'inquiète un peu, il se dit, mais comment se fait-il qu'ayant reçu ce collier, parce qu'il croit qu'elle l'a reçu, Marie-Antoinette ne m'adresse plus la parole, ne m'écrive rien, ne me remercie pas, rien du tout. Hein. Il faut rappeler que le contrat prévoyait un paiement en quatre parties, dont la première devait être le 1er août,
hein, 1785.
Alors, le 1er août, voilà que Bomer lui-même, ne voyant pas l'argent arriver, s'inquiète et il va à la cour.
Il va demander à la reine de régler la première échéance. Et la reine tombe des nues. Elle n'est absolument au courant de rien. Alors, elle réfléchit, elle convoque son conseiller personnel, elle convoque le baron de Breteuil, qui est le ministre de la Maison du Roi, c'est-à-dire ministre de l'Intérieur. Que faire ? Et on décide, avec Louis XVI, d'arrêter le cardinal en pleine Galerie des Glaces.
Et
le 15 août, le jour de l'Assomption, fête de la reine.
Oui, et il devait célébrer la messe, et il est convoqué par le roi en présence de la reine et en présence du baron de Breteuil.
Niez-vous votre participation dans cette affaire ?
Non, Majesté.
Alors vous reconnaissez vous être servi du nom de la reine en vue d'acquérir ce collier pour votre compte.
Pour mon compte ? Je dément formellement cette allégation, Majesté.
Comment avez-vous pu croire que je vous choisirais pour être mon émissaire ? Vous, à qui je n'ai pas adressé un traître mot au cours des 10 dernières années.
Laissez-nous. Je supplie votre Majesté. Pour la réputation de ma famille, de bien vouloir taire toute cette affaire jusqu'à
ce que... Le roi vient de donner un ordre. Quittez ce cabinet, cardinal de Rohan.
C'est la comtesse. Je vous jure...
Quittez ce cabinet.
Alors, il faut imaginer la scène, et Villeneuve, vous la racontez aussi dans votre livre, c'est inouï, parce qu'il y a toute la cour qui est dehors, à l'extérieur de ce salon où Rohan vient d'être chassé, d'où Rohan est chassé par Louis XVI, et il va être arrêté par Breteuil devant tout le monde. C'est un scandale énorme qui se produit ce 15 août, juste avant la messe de l'Assomption que devait d'ailleurs célébrer Rohan.
Oui, alors il est conduit d'abord chez lui, où on fait l'inventaire de ses papiers, on met les scellés sur ses papiers, et ensuite il est conduit à la Bastille. Il est conduit à la Bastille et on arrêtera seulement quelques jours plus tard Madame de la Motte. Et puis, Madame de la Motte ayant dénoncé Cagliostro, on arrêtera également Cagliostro. Et en quelques jours, les principaux protagonistes de l'affaire se retrouvent sous les verrous.
Il y avait parmi les protagonistes, on a oublié de le mentionner, le pauvre mari de Madame de la Motte, qui était dans le coup aussi,
oui,
et qui s'est enfui en Angleterre. Oui, enfin, il s'est enrichi. Il a vendu aussi, des bijoux.
Non, il n'est pas sous les verrous, justement.
Non, il s'est enfui en Angleterre.
C'est ça, on l'a laissé filer, celui-là, et on se demande pourquoi on l'a laissé filer.
Et il y a le faussaire, l'amant de Madame de la Motte,
Il est parti en Suisse, lui.
Oui.
Il est aux Anglais.
Mais il sera arrêté aussi.
Il sera arrêté plus tard, mais parce que, il faut bien voir qu'on va intenter un procès au cardinal de Rohan.
Je comprends pas, je vous coupe une seconde, Lévi Neuver. Pourquoi est-ce que Madame de la Motte, une fois l'affaire connue, une fois qu'elle avait mis dans ses poches les fameux diamants, le fameux collier, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie?
Alors, ça reste un mystère. Je crois que Madame de la Motte était persuadée que le cardinal, pour éviter un scandale, paierait 1 600 000 livres et qu'elle, elle pourrait partir et vivre bien tranquillement avec le gain du collier.
Ouais.
Alors, ce qui est important, c'est que là, nous avons toute une affaire qui est une affaire, disons, policière, si on veut simplifier les choses. Et puis, là, on va entrer dans une autre phase de l'affaire, c'est-à-dire, on va entrer dans une phase
de procès. Une enquête très longue, 9 mois, oui.
Alors, le roi a chargé son procureur général au Parlement de Paris de porter plainte en son nom contre le cardinal et contre Madame de la Motte, qui sont considérés comme complices. Et on les accuse de manœuvres criminelles et indécentes qui compromettent l'honneur de la reine. Alors, il y a toute une enquête qui commence avec les magistrats du Parlement. Et il paraît évident, parce que j'ai été recherché dans les archives, j'ai retrouvé tous les brouillons de certains du procureur, et on voit bien que l'idée, c'est de perdre Rohan. Et on ne convoque pas des témoins qui pourraient lui être favorables. Or, la famille de Rohan, qui est une famille extrêmement puissante, lance une contre-enquête et envoie en Angleterre un messager pour essayer de voir ce que sont devenus les diamants. Et les Rohan arrivent à créer un dossier qui est un dossier qui innocente en quelque sorte le cardinal et qui montre que c'est véritablement Madame de la Motte qui a été le cerveau de l'affaire.
Et c'est ainsi qu'après 9 mois d'enquête commence un procès à Pâques 1786, un procès public d'ailleurs voulu par Marie-Antoinette.
Non, il n'est pas public.
Enfin, devant le Parlement.
Devant le Parlement. Hein,
voulu par Marie-Antoinette.
À huis clos.
Voulu par Marie-Antoinette elle-même.
À vrai dire, je ne vois qu'une seule façon de régler cette affaire. C'est qu'on la fasse juger sans délai par le Parlement.
Ce serait là une grave erreur, Majesté. C'est au roi, héritier du droit régalien, de porter jugement en cette matière. Pourquoi s'en remettre à une cour plus hostile?
Parce que le peuple, aujourd'hui, ne respecte que le jugement du Parlement. Si le Parlement déclare que Rohan est le seul véritable auteur de ce crime, mon nom sera lavé de tout soupçon.
Et si c'est lui qui est disculpé? Cela ne revient-il pas à dire que vous êtes coupable?
Sa Majesté a raison. Vous ne seriez pas jugé, bien sûr, mais la faute retomberait sur vous tout de même.
Que publiquement on reconnaisse mon innocence, c'est tout ce que je demande à la justice.
Hallelujah.
France Inter de Milan d'Histoire, aujourd'hui l'affaire du collier de la reine et ce procès, donc, on vient de l'entendre, à l'issue duquel, Évelyne Levert, comme on vient de l'entendre dans cette chanson, le cardinal, effectivement, a été blanchi, mais avant qu'on en parle, pourquoi n'a-t-on pas tenu cette affaire secrète? Parce que
ça,
elle va se retourner contre la monarchie.
Parce que c'est une grave faute de la part de Louis XVI que d'avoir fait ce scandale. Il pouvait d'abord s'entretenir avec Rohan et essayer de tirer l'affaire au clair discrètement. S'il voulait aller plus loin, il pouvait ce qu'on appelle en droit d'ancien régime retenir la justice, c'est-à-dire le juger directement ou le traduire devant son propre conseil, et il aurait pu à l'issue de cela ou bien l'envoyer à la Bastille sans autres explications ou bien l'envoyer en exil dans son évêché ou dans une abbaye quelconque. Et c'est Marie-Antoinette qui a demandé au roi que Rohan puisse choisir s'il voulait être jugé directement par le roi, s'en remettre à la justice du roi, ou bien s'en remettre au Parlement. Et contrairement à ce que pensaient le roi et la reine, Rohan a demandé d'être traduit en justice devant le Parlement. C'était à ce moment-là, c'était ouvrir un déballage public, un déballage d'un scandale absolument sans précédent. C'était une grave erreur.
Et le Parlement qui a innocenté Rohan, qui sera quand même envoyé en exil dans son abbaye de la Chaise-Dieu, hein, il aura un destin, bon, ensuite on va appeler...
Non, il mourra dans son lit, le cardinal Rohan. Oui.
Et alors, en revanche, le Parlement a été beaucoup moins indulgent avec Madame de Lamotte, bien sûr, hein. Elle a été, je crois, condamnée à être emprisonnée à la
Salpêtrière. Oui, parce qu'elle est quand même... Elle est convaincue d'avoir été vraiment la voleuse du collier et l'instigatrice, parce que on voulait l'accuser, le roi et la reine voulaient l'accuser de faux, d'escroquerie et de crime de lèse-majesté. Et les magistrats ont été obligés, au cours de l'instruction, au cours du procès, ils se sont bien rendus compte qu'ils n'étaient pas coupables d'escroquerie, qu'ils n'étaient pas coupables de faux, que l'escroquerie c'était Madame de Lamotte, que le faux c'était Madame de Lamotte par l'intermédiaire de Rétaux de Villette, son autre amant, mais il était coupable de lèse-majesté. Il était coupable de lèse-majesté, pourquoi? Parce qu'il avait eu la témérité de croire, et ça c'était très grave pour l'image de la reine et de la monarchie, il avait eu la témérité de croire que la reine pouvait lui donner des rendez-vous secrets la nuit dans le parc de Versailles, de croire qu'elle entretenait une correspondance amoureuse avec lui, et de croire qu'elle avait voulu lui faire négocier un collier.
La grande victime aurait été Évelyne Levert, c'est la reine de France. Elle voulait que ce procès l'innocente, pas du tout. En acquittant Rohan, effectivement, brusquement, elle est accablée. Et ça va accroître son impopularité, parce que tout le monde se moque d'elle, bien entendu.
On ne se moque pas d'elle, on la hait. Ça va beaucoup plus loin que ça.
Est-ce que c'est pas pour ça que Mirabeau disait de ce procès et de cette affaire du collier de la reine qu'elle était le prélude de la Révolution? Est-ce qu'on peut dire que ça a entraîné la Révolution en discréditant, justement,
ça a discrédité l'image royale, aussi bien l'image de la reine et partant l'image du roi, et justement en montrant par son verdict que la reine était une personne soumise aux lois comme les autres, eh bien le Parlement laissait présager que la personne du roi elle-même pourrait être mise un jour en jugement. Et en cela, c'est extrêmement grave. Parce que cette affaire, c'est un fait divers, mais c'est beaucoup plus que cela.
Mais est-ce que la reine était aussi innocente que ça? Vous rappelez quand même que après cette affaire, tous les historiens, tous les romanciers s'en sont emparés.
Trop beau.
Oui, mais justement, il y en a certains, je pense à Michelet, qui accablent la reine et qui disent qu'en fait, elle n'était pas aussi innocente, qu'elle connaissait très bien Lamotte, et qu'elle s'est servie au fond de Lamotte, non seulement pour se moquer de Rohan, mais aussi pour empêcher le bénéfice de ce bijou pour avoir de l'argent.
Oui, écoutez, là, c'est tombé vraiment dans la vraisemblance. C'est tombé dans la vraisemblance, et ça, c'est au nom de ces sentiments républicains du 19e siècle que Michelet a écrit. D'un autre côté, les historiens royalistes ont fait de Marie-Antoinette une sainte. Alors, il est bien évident qu'il y a les deux traditions en France qui s'opposent depuis 200 ans sur Marie-Antoinette, la tradition royaliste et la tradition républicaine. En fait, Marie-Antoinette n'est pas la sainte de la monarchie qu'ont voulu imposer les royalistes, mais ce n'est pas non plus cette louve assoiffée de sang et cette femme, cette putain qu'ont voulu montrer les républicains. En réalité, si on se replace uniquement dans l'affaire du collier, je crois que la reine en savait plus qu'elle n'a voulu le dire. Elle pense tout à fait innocente dans le collier. Simplement, il est possible qu'elle ait reçu Madame de Lamotte tout simplement pour se distraire, pour voir ce que c'était qu'une aventurière. Et probablement a-t-elle assisté à la scène où elle était représentée par la petite prostituée. Parce que la suite de l'histoire ne s'expliquerait pas bien s'il n'y avait pas cet élément-là. Elle en savait un petit peu, mais elle n'aurait jamais trempé dans une affaire comme celle du collier.
Ben, nous-mêmes, on n'en sait pas beaucoup plus. Enfin, bien, si, quand, même quand on vous lit, parce que vous avez quand même consulté des tonnes d'archives, oui, des tas d'historiens, et à la fin de votre livre, vous dites vous-même qu'on ne découvrira sans doute jamais la vérité, mais la,
oui,
complète vérité.
Écoutez, moi je vous dis une chose, je suis pas le commissaire Maigret, je ne dis pas ça, mais bien sûr, à la fin de mon livre, je donne toutes les pièces. Il y a énormément de zones d'ombre, et je crois que j'indique ces zones d'ombre. Il y a des choses très très étranges. On n'en a pas le temps d'en parler ici, mais vraisemblablement, la reine, je répète, en savait plus qu'on a bien voulu le dire.
Et le collier, qu'est-ce qui est devenu au fait?
Ben, le collier, il a été vendu en petits morceaux. Il paraît qu'il y en aurait une partie dans les bijoux de la reine d'Angleterre. Mmh. Parce que il a été vendu en Angleterre, et comme nous, c'était des pierres assez exceptionnelles.
Eh bien, ce collier, on peut le voir sur la couverture de votre livre, Evelyne Levert, L'affaire du collier, un livre dont je recommande la lecture, et pas seulement la couverture, parce que c'est vraiment passionnant, c'est un polar, au fond, hein, sauf que tout est vrai, hein, dans cette,
oui,
histoire. L'affaire du collier, donc, de Evelyne Levert, publié chez Fayard. Evelyne Levert, qui est également l'auteur d'une biographie de Marie-Antoinette, publiée chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits du film L'affaire du collier de Charles Shire. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 3230, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. Une émission, je rappelle aussi, que vous pouvez entendre la nuit. Elle est rediffusée entre 3h et 3h30. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Sandrine Laurent et Philippe Duclos, documentation Virginie Bleu-Cléné et Claire Tesser, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, exceptionnellement, nous vous proposons une rediffusion de 2000 ans d'histoire pour nous associer à l'hommage qui lui sera rendu à 11h à l'église Saint-Honoré des Lots. Vous pourrez entendre André Castelot, qui était un ami de notre émission, qui nous a quittés en juillet dernier, qui était venu nous parler il y a 4 ans d'un sujet qu'il connaissait bien, Napoléon à Sainte-Hélène. Il est 14h30, très près.